Amour d'aujourd'hui de Daniel Le Sueur. Chapitre 1er. Elle suivait le quai d'Orsay de son pas court, vif, décidé, son joli teint frais animé par l'air sec et piquant d'un après-midi de décembre, ses beaux yeux bleus curieusement et joyeusement ouverts, sa toque de loutre coquettement posée sur ses frisons d'un brun doré, lorsque tout à coup un grand tressaillement la secoua, ses genoux fléchirent, la force lui manqua pour avancer. Elle venait d'apercevoir Lionel. Ce n'était pas pour le rencontrer qu'elle avait fait ce grand détour. Sortant du Louvre, où elle copiait un tableau de l'école italienne, et n'ayant qu'à prendre l'avenue de l'Opéra et la rue d'Amsterdam pour se retrouver chez ses parents aux Batignolles, non, elle aurait eu presque peur à l'idée de le voir et surtout, grande honte en songeant qu'il devinerait une pareille intention. Elle voulait seulement respirer un peu l'air qui entourait immédiatement celui vers qui, depuis peu, allaient toutes ses pensées. Elle découvrirait peut-être, en scrutant la façade froide à prétention grecque du ministère des Affaires étrangères, dans quel angle du grand bâtiment se trouvait la pièce où il se tenait, comme chef de cabinet du sous-secrétaire d'État. La faveur de Gambetta, alors président du Conseil, lui avait valu cette position, si jolie pour un jeune homme de 24 ans, jusque-là simple secrétaire auprès de l'illustre tribun. Et voilà qu'il arrivait au-devant d'elle, tournant l'angle de l'esplanade, de sa démarche assez pesante, aux jambes très légèrement arquées d'un cavalier démonté, bien qu'il n'eût pas l'habitude du cheval, mais le buste fort et bien droit, et sa tête superbe, fièrement rejetée en arrière au-dessus de son col de fourrure. « Mademoiselle Renée, » fit-il d'un ton de surprise charmé, en tendant la main à la jeune fille. Elle avait repris son sang-froid, en apparence du moins. Au fond du cœur, elle sentait renaître le trouble délicieux et encore inexpliqué, éveillé depuis quelque temps par le regard de ses longs yeux bruns veloutés qu'elle avait vus jadis tout enfantins et qui, d'un jour à l'autre, venaient de lui révéler leur dangereuse puissance. « Est-ce que vous veniez, dit Lionel, me rappeler ma promesse de vous donner des billets pour la chambre ?»«
Je suis un fameux étourdi. »
« Vous devez m'en vouloir. » Il mit dans ses mots « m'en vouloir » un accent confiant et câlin qui les démentait et qui fit frissonner René comme l'aurait fait une caresse. « Oh, monsieur Lionel, » répondit-elle avec vivacité, « me croyez-vous capable d'une telle inconvenance ?»« Non, non, je passais seulement, tout à fait par hasard. » Puis, tout de suite, sa gaieté remportant comme toujours sur un petit mouvement de pudeur offensée, elle ajouta avec son brillant sourire et un coup d'œil vers la grande et solennelle bâtisse. « Un ministère. Mais je serais aussi embarrassé d'y entrer que dans un iceberg.
« Pourquoi ?»
fit Lionel. « Ce n'est ni si fermé ni si froid. Il y a un feu magnifique dans mon cabinet. Venez donc vous y chauffer un instant pendant que j'enverrai chercher un billet pour vous à la questure. La séance va être intéressante cet après-midi. Gambetta prendra la parole. »
« Oh, Gambetta doit parler, vraiment ?» s'écria René.
Et Lionel admira le joli visage, si mobile, sur lequel les moindres émotions marquaient leurs traces rapides et successives, tandis que la plus profonde d'entre elles, déjà pressentie par sa fatuité d'homme, l'illuminait d'une clarté permanente et douce. Qu'il était donc agréable à sa vanité et favorable au plan arrêté dans son cœur de sentir vibrer sous ses paroles et ses regards l'âme si délicate, si frémissante, si sensible et, il le savait, si absolument pure de cette jeune artiste, déjà presque célèbre, qui s'appelait René Sorel. Tandis qu'il l'écoutait se défendre d'accepter son invitation, ses yeux à lui, ses longs yeux voluptueux et charmeurs, posés obstinément sur elle, amassaient tout leur magnétisme passionné pour le répandre ensuite en effluves pénétrants. Il se taisait, il la regardait simplement sans insister davantage, tandis qu'elle énumérait les motifs de son refus. Lui, dont la faconde pleine d'assurance en politique le faisait triompher à la jeune tribune de la conférence Molé, en attendant les grands succès d'orateur dont il se croyait sûr déjà, il était silencieux en amour. C'était sa force. Dans les combats du cœur et des sens, toutes les armes, même les plus mauvaises, valent mieux que les arguments.
Les seules paroles que Lionel employa auprès des femmes étaient les paroles cajolantes qui ressemblent aux caresses. Il ajoutait ainsi à sa beauté, à sa renommée naissante, à tous ses dons, l'attrait du mystère. Celui aussi d'une tendresse qui ne se démentait pas extérieurement, même alors qu'il infligeait, en connaissance de cause, les plus cruelles tortures. Lorsque Renée se tut après avoir déclaré qu'elle n'oserait avouer cette escapade à ses parents, qu'elle ne pourrait assister seule à une séance de la chambre, qu'elle ne voulait pas que Lionel pût la juger inconséquente et hardie, et que d'ailleurs, elle craignait d'être rencontrée avec lui, le jeune homme lui dit doucement « Venez donc, mademoiselle Renée, je désire tant vous faire entendre, mon cher maître, mon modèle, mon ami et Gambetta. Venez, quand nous nous rencontrerons de nouveau chez madame Anderson, nous pourrons causer de lui ensemble. » Et elle le suivit, toutes ses résolutions s'envolant sur un mot, sur un désir de lui. Elle savait qu'il avait deux grandes affections auxquelles il donnait toute sa vie, sa mère et Gambetta. Elle souhaitait ardemment connaître ce qu'il aimait. La mère, elle, madame Duplessier, était en province où son mari avait obtenu, toujours grâce au nouveau président du conseil, une recette particulière. Bien que Renée eût vu Lionel chez des amis d'enfance et que leur camaraderie remontât à ses plus lointains souvenirs, elle se rappelait à peine madame Duplessier, qui avait longtemps habité Versailles et qui, toujours souffrante, ne se montrait guère hors de chez elle. Cependant, être l'amie de cette mère du jeune homme qu'on disait adorée par lui, de laquelle il parlait sans cesse, l'appelant « ma petite maman », et qui, disait-on, paraissait encore si jeune et si belle qu'elle aurait pu passer pour la sœur de ce grand garçon aux épaules robustes, à la fine et abondante barbe brune, c'eût été le rêve de Renée. Dans l'impossibilité de le satisfaire, par suite des circonstances qui ne s'y étaient jamais prêtées, elle avait reporté tout le superflu de son amour sur le célèbre tribun, dont elle dévorait les discours dans les journaux, et qui, en rêve, lui apparaissait, malgré sa corpulence tout à fait terrestre, comme le bon ange de Lionel. Elle allait donc l'entendre. Son enthousiasme naïf pour les grands orateurs et pour les questions profondes que la parole agite si aisément et si rarement résout, augmentait l'entraînement qui la faisait marcher maintenant à côté du jeune chef du cabinet de monsieur le sous-secrétaire d'État, le long du trottoir de l'esplanade et des couloirs du ministère, dans une sorte d'inconscience à la fois ravie et troublée. Renée Sorel, à 22 ans, était à beaucoup de points de vue plus jeune que ne le comportait son âge, surtout à notre époque de maturité hâtive. Sa nature était pleine d'illusions, et capable de les conserver à travers les plus dures expériences. Elle ne connaissait rien de la vie. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que peuvent être les hommes. Son ignorance des réalités s'alliait à la plus vive intelligence des choses abstraites. Une certaine qualité subtile de son esprit, qui lui faisait pressentir la vérité et repoussait l'erreur à travers les lectures prodigieusement variées dont elle se nourrissait, ne se retrouvait pas dans la pratique de l'existence et le commerce du monde. En ceux à qui elle avait directement affaire, elle ne voyait plus que le bien, le mal n'existait pas. Confiance dangereuse chez une jeune fille que la nécessité mettait tout à coup aux prises avec le jeu impitoyable des intérêts les plus personnels et les plus grossiers, c'est-à-dire avec la société moderne, et cela après une première jeunesse passée dans un isolement studieux, une réclusion presque absolue. Son père, M. Sorel, professeur de l'université, avait rempli une carrière des plus honorables, jusqu'au moment où une infirmité subite, un décollement de la rétine, l'avait brusquement privé de la vue. Il s'était alors trouvé avec sa femme et sa fille, sans autre ressource qu'une modique pension, ce qui l'avait empêché de préparer quelque aisance pour les jours de vieillesse ou de maladie. C'est qu'il avait toujours écrit plutôt qu'enseigné, et ses travaux très spéciaux lui avaient apporté plus d'honneur que d'argent. Il avait élevé Renée très sérieusement, presque austèrement, secondé en cela par madame Sorel, douce personne, dévouée, simple et profondément pieuse. La petite fille apprit auprès de sa mère à aimer la religion protestante. L'imagination très ardente de Renée ne semblait pas devoir être satisfaite par un culte aussi froid. Mais la Bible, dont on lui faisait apprendre par cœur des chapitres entiers, lui plut par sa poésie mystique et grandiose. Lorsque le dimanche elle suivait sa mère à l'église, laissant M. Sorel au milieu de ses livres de philosophie, son cœur se serrait, et un moment après, sa prière la plus fervente était adressée à Dieu pour qu'il touchât l'âme de son père. M. Sorel crut bien faire, en abandonnant entièrement à sa femme l'éducation religieuse de leur enfant. Il était de l'école de ceux qui, cherchant la vérité pour eux-mêmes, la croient dangereuse pour le peuple et pour les femmes. De bonne heure, René sentit naître en elle des contradictions et s'élever des luttes entre la forte instruction qu'elle recevait du côté paternel et les croyances qu'elle devait à sa mère. Elle souffrit, sans oser rien dire, de peur d'affliger l'un ou l'autre de ses parents. Pour échapper aux tourments de ses doutes, elle se réfugia dans un spiritualisme vague où entrait en première ligne son profond besoin d'aimer, qui embrassa toute l'humanité, et son culte pour la beauté que l'art nous révèle, et qu'elle crut la plus sainte et la plus véritable manifestation du divin dans le monde. Elle se fit une sorte de religion à son usage, tirée tout entière de sa propre imagination. Elle essaya de la rendre précise, car il lui fallait absolument un principe sur lequel elle put établir tous ses actes, toutes ses pensées, comme sur une base ou un pivot. Elle ne comprenait pas l'existence sans une direction générale, un point de départ, un but visible et défini. Mais cette petite tête de jeune fille était trop faible pour trouver une solution que les plus grands penseurs s'acharnent vainement à découvrir. Elle chavira tout entière dans la poésie. Elle s'exalta dans des rêves sans fin. René en arriva à cette conclusion, qui eût été d'une hardiesse presque cynique dans une âme moins absolument saine et innocente que la sienne. La vérité, pourquoi m'épuiser en efforts inutiles pour l'atteindre tandis qu'en réalité je la possède? La vérité, mais elle est en moi-même, dans les impulsions de mon cœur, qui ne peut vouloir que ce qui est juste et bon, puisque toute fausseté, toute laideur, toute impureté lui répugne. Je distingue beau tableau d'une œuvre médiocre. La vérité est encore là, mais la beauté n'a pas toujours été comprise de la même façon, pas plus que la vertu. Il y a du relatif dans l'art aussi bien que dans la morale. Ce qui est absolu, ce qui est nécessaire, ce que les croyants appellent la voix de Dieu, ce que j'appelle moi, du nom suprême de vérité, c'est la conscience, c'est la sincérité. Tant que je serai sincère, fidèle à ma vérité intérieure, absolue en elle-même, quoique relative à l'égard de la morale et des lois humaines, je ne ferai jamais rien dont je puisse avoir du regret ni dans cette vie, ni dans l'éternité, ni devant le juge, quel qu'il soit, qui doit peser un jour nos actions dans sa balance éternelle. Voilà comment l'austérité d'un père, la piété d'une mère, et une éducation presque trop calme, retirée, sérieuse, arrivait à mettre tout à coup en présence d'un monde gouverné par des nécessités implacables, mû par d'aveugles forces qui pouvaient, hélas, la broyer en moins d'une seconde, la créature la plus charmante et la plus généreuse, absolument ignorante de ses nécessités et de ses forces, et absolument désarmée. Qu'elle connaissait peu, en effet, les conditions de la vie dans notre société actuelle, puisqu'elle s'imaginait la traverser heureusement et purement, sans autre défense et sans autre guide que ses rêves. Pauvre petite Renée, qui décorait du nom d'absolu les belles chimères de son cœur. Jusqu'à présent, son chemin avait été simple et droit. Elle possédait, comme peintre, un talent remarquable. Son père, qui craignait pour elle le score scabreux d'une femme artiste, assez longtemps entrava ses goûts. Lorsque la cécité du professeur laissa la petite famille presque sans ressources, les leçons de dessin données par la jeune fille et la vente de ses jolies toiles de genre ramenèrent très vite le bien-être. On n'essaya plus de la détourner de ses pinceaux. Depuis 3 ans, il la faisait vivre ainsi que ses parents. Élève encore elle-même d'un de nos maîtres, elle avait organisé chez elle un cours déjà fort suivi, et au printemps dernier, elle avait exposé. Lionel savait tout cela et, précisément, c'était du succès de son tableau qu'il lui parlait, assis en face d'elle auprès du feu, dans le salon qui lui servait de cabinet de travail au ministère.
Oh, succès est un bien grand mot, faisait René. Cependant, je l'ai vendu, ma provocation, et c'est toujours, vous savez, la grosse affaire, vendre ces méchants bouts de toile.
Le sujet était piquant, reprit Lionel, et bien spirituellement traité.
Cette peinture de René représentait en effet une provocation en duel. Des cartes échangées, mais discrètement, dans un coin de salon, au milieu de l'animation joyeuse d'un bal. Tout un petit roman, car on pouvait deviner qu'une femme était la cause de la querelle, une jolie femme très jeune, en toilette vaporeuse, qui, tout en forçant sa bouche à sourire au-dessus de l'éventail, jetait un regard plein d'épouvante vers les deux hommes entourés, dissimulés par leurs amis.
« Voyez-vous, disait Lionel, puisque vous réussissez si bien dans la peinture de genre, il faut rechercher toutes les occasions qui vous fourniraient des idées, des sujets d'études. Une séance à la chambre, c'est absolument nécessaire que vous vous rendiez compte de cela. »
René avoua qu'il y avait bien des scènes, bien des milieux, qu'elle aimerait voir de près, mais qui lui étaient interdits en sa qualité de jeune fille.
Une grande difficulté, cela, pour son genre de travail. Les hommes étaient vraiment des êtres bien heureux, dans leur grande liberté. Elle se confinerait forcément dans les sujets pris aux intérieurs bourgeois. Salon banal ou coin de feu d'intimité vulgaire. Elle ne pouvait aller venir monter aux sphères de haute élégance, ni descendre aux recoins pittoresques de la bohème, aux spectacles dramatiques de la misère. Pas même se promener seule à la campagne, surprendre quelques scènes rustiques pénétrées chez les paysans.
« Je ne pourrai jamais être original, » fit-elle en soupirant.
« Bah, » dit Lionel, « qu'importe le sujet traité, l'originalité, si vous ne l'aviez pas en vous, elle ne vous viendrait jamais du dehors. »
« Vous rappelez-vous, monsieur Lionel, notre fameux pacte d'alliance ? J'avais beaucoup compté là-dessus, mais j'étais égoïste, j'en aurais profité toute seule. Il vaut mieux que vous l'ayez dénoncé. »
Elle faisait allusion à leur causerie chez Madame Anderson. Cette dame recevait le soir une fois par semaine, dans l'intention de marier ses filles, deux jolies blondes, élevées à Paris avec toute la liberté de l'Amérique, le pays de leur père. Veuve de bonheur, Madame Anderson, une Française, était revenue dans sa patrie. Elle y rapporta les allures indépendantes d'outre-mer, laissa ses filles sortir seules, attira des jeunes gens chez elle parce qu'elle aimait leur gaieté et parce qu'elle se figurait aussi trouver promptement parmi eux des maris pour ses deux enfants sans dot. Les petites, provocantes et toutes gracieuses, avec leur accent gazouillant d'étrangères dû à la pratique constante de l'anglais dans l'intimité, flirtèrent sans trêve ni relâche, furent courtisées, mais jusqu'ici n'avaient pas rencontré de prétendants sérieux. Renée était la camarade d'enfance des demoiselles Anderson. Avant que leur excentricité eût un peu refroidi M. et Mme Sorel, les deux familles se voyaient constamment, vivant à quelques portes les unes des autres, suivant les mêmes cours d'éducation. Les jeunes filles se considéraient comme trois sœurs. Puis Mme Anderson avait déménagé, M. Sorel avait perdu la vue, les relations s'étaient forcément ralenties. Renée, très absorbée par son travail et sa mère, ne quittant jamais le pauvre aveugle, les amis ne se réunirent plus guère. Leur affection, cependant, ne diminua pas. Quand Madame Anderson organisa ses soirées du mardi, elle insista pour voir Renée d'une façon régulière. La jeune artiste formait le principal attrait de son salon, où l'élément féminin menaçait de manquer par trop. Elle offrit de la faire reconduire toutes les fois par sa bonne, ou plutôt de la ramener elle-même dans les belles soirées. Malgré leur sévérité, M. et Mme Sorel ne purent toujours refuser ces distractions à leur fille et ce service à leur ancienne amie. Les habitués de Mme Anderson portaient presque tous des noms connus dans la littérature et dans les arts. Ces réunions étaient charmantes, précisément peut-être à cause de leur petit cachet de fine bohème. Il s'y trouvait nombre d'hommes de talent et d'esprit, heureux de passer une ou deux heures agréables auprès d'un trio de jeunes filles séduisantes et distinguées, qui savaient les affranchir des convenances par trop rigoureuses du monde, tout en les retenant bien loin du laisser-aller vulgaire et stupide de la société équivoque. C'était un genre évidemment plus intelligent et plus naturel,
que l'étiquette absurde des salons guindés où la jeune fille, après chaque tour de valse, revient s'asseoir à côté de sa mère. La liberté régnait moins grande, après tout, chez Anderson qu'en Amérique, où les jeunes gens des deux sexes rendent des visites et sortent ensemble, souvent tête à tête, sans que les parents s'en préoccupent. Néanmoins, il suffit qu'un système soit appliqué dans des conditions différentes de celles qui l'ont fait naître, pour devenir par cela même dangereux. Ce qui est la règle, c'est-à-dire la chose établie, respectée chez un peuple, devient chez l'autre l'irrégularité, la licence, et ouvre la voie au plus grave désordre. La vertu de l'un devient le vice de l'autre. Cela est vrai des petites coutumes comme des plus hautes lois sociales. Que deux fois Lionel Duplessier, qui lui aussi était lié depuis l'enfance avec la famille Anderson, que deux fois Lionel s'était détourné le soir de son chemin pour accompagner René au Batignolles. La vieille bonne marchait derrière d'un pas somnolent. Parfois, un groupe d'amis revenant du même côté les entourait de rires et d'intarissables conversations. Eux, aux bras l'un de l'autre, n'entendaient et ne voyaient qu'eux-mêmes. Ce n'était pas d'amour qu'ils parlaient, non. Lui était trop respectueux, elle trop candide et trop pure. Ne savait-elle pas, d'ailleurs, la modeste artiste, qui luttait si courageusement contre les plus âpres difficultés pour donner l'aisance à sa mère et à son père aveugle, ne savait-elle pas que ce beau jeune homme, vif, ardent, éloquent, ambitieux, était promis, par la tendresse enthousiaste de ses parents, les prédictions de ses amis, et surtout l'affection toute paternelle de Gambetta, aux plus brillantes? Ne savait-elle pas qu'il considérait l'argent comme un instrument indispensable? Un instrument d'action, croyait-elle, non pas un vil instrument de jouissance, et qu'il annonçait très haut la nécessité où il se trouvait de n'épouser qu'une fille riche. Si l'on disait à ma mère, faisait-il avec sa belle assurance, que je ne serais pas ministre un jour, on l'étonnerait prodigieusement. Ah, disait René, qui, jeune et ardente comme lui, ne se choquait pas d'une présomption si naturelle à leurs 20 ans impétueux. Ah, monsieur Lionel, quelle tâche magnifique vous entreprenez! Vous serez l'un des sauveurs et l'un des guides de notre chère France, énervée, lassée, affaiblie. Vous, du moins, vous ne parlez pas de décadence. Non, non, il en est encore des jours glorieux pour nous. Ils se lèveront peut-être à votre parole. Et l'enthousiasme de cette belle jeune fille, crédule, sincère, résolue elle-même à n'accomplir que de nobles choses, enivrait Lionel. À côté d'elle, le long du chemin de fer de ceinture, sur le boulevard désert, sous les petits platanes frissonnant aux brises du printemps ou rigides sous le givre de l'hiver, dans la nuit douce ou glacée, il se sentait véritablement aussi grand, aussi désintéressé, aussi prêt à tous les héroïsmes, qu'elle le voyait avec ses yeux à elle, ses yeux déjà troublés par une invincible passion. Que de sujets ainsi remués entre eux depuis 2 ou 3 ans. Art, patrie, religion, philosophie, tout était pâture à leur appétit sans frein d'émotion et de vérité. Les doutes, les incertitudes morales de René, elle les avouait à Lionel. Le jeune homme essayait vainement de les trancher par un mot plein d'autorité, par une affirmation hardie, comme il en avait facilement aux lèvres. Il effrayait un peu la jeune fille. Elle discutait tout de suite, tâchant à son tour de le convertir à quelque chose de plus doux, qu'elle ne voyait pas très bien, mais auquel elle croyait encore. Car Lionel était matérialiste et, par exemple, niait l'immortalité de l'âme. Elle raisonnait, comme toutes les femmes, en prenant pour base le sentiment. « Si j'avais une idée semblable, disait-elle, je souhaiterais de mourir immédiatement. Ce serait une torture pour moi de vivre, comme je le fais, par la tendresse, et de songer à ceux que j'aime comme devant être séparés de moi pour toujours. Je ne prétends pas savoir ce que cache le mystère de la mort. Peut-être demeurerai-je bien longtemps loin des miens, mais je les posséderai du moins par le souvenir qui ne s'anéantira jamais en moi, et un jour, la réunion définitive s'accomplira. Oh non, notre amour et nos larmes ne peuvent pas être des semences périssables que le souffle du néant disperse dans la nuit infinie. Quelques fruits de lumière et de joie doivent en venir plus tard. Laissez-moi donc cette espérance. » Et elle ajoutait,
avec sa douce sympathie, que Lionel sentait glisser comme une caresse d'âme jusqu'au fond le plus secret de chaque pensée délicate et douloureuse. Comme vous devez souffrir de vos croyances, vous qui chérissez si tendrement votre mère, et elle s'arrêtait, ne voulant pas dire, et qui la savait d'une santé bien précaire. Que voulez-vous ? Répondait-il. C'étaient des mots bien froids. Ah, que de fois elle devait les entendre, que de fois il devait accueillir ses sanglots désespérés. Mais alors ils ne lui faisaient pas l'effet d'une énigme affreuse, impitoyable. Ils étaient prononcés d'un ton si empreint de mélancolique et altière résignation. La bouche de Lionel se fermait sur eux avec un pli si fier. Ses admirables yeux se fixaient si fermes et si tristes sur l'espace, au loin, comme s'ils eussent envisagé, sans un frémissement de paupières, l'inévitable néant. Ou bien, le jeune homme, de sa voix ample et profonde, déclamait quelques vers de Madame Ackermann. Éternité de l'homme, illusion, chimère, mensonge de l'amour et de l'orgueil humain. Il n'a point eu d'hier, ce fantôme éphémère, il lui faut un demain. Pour cet éclair de vie et pour cette étincelle qui brûle une minute dans vos cœurs étonnés, vous oubliez soudain la fange maternelle et vos destins bornés. Vous échapperiez donc au rêveur téméraire, seul au pouvoir fatal qui détruit en criant. Quittez un tel espoir, tous les limons sont frères en face du néant. Vous dites à la nuit qui passe dans ses voiles, j'aime et j'espère voir expirer tes flambeaux. La nuit ne répond rien, mais demain, ses étoiles luiront sur vos tombeaux. René levait les yeux vers le ciel calme où luisaient des myriades d'étincelles d'or. Et cette sérénité de la nuit, cette voix grave, harmonieuse, déjà si chère, ces paroles solennelles, cette grandeur des questions discutées, lui remplissaient le cœur d'une insurmontable émotion. Pendant une promenade de ce genre, en revenant de chez Madame Anderson, où d'ailleurs ils causaient si longuement ensemble, qu'on séparait en riant leurs sièges pour les placer aux extrémités opposées du salon, dans une de leurs conversations, de jour en jour plus profonde, plus intime, Lionel et René avaient conclu ce fameux pacte d'amitié auquel la jeune fille faisait allusion en chauffant ses minces bottines devant la cheminée du ministère. C'était une de ces naïves ruses par lesquelles l'amour naissant et inavoué commence à affirmer ses droits, et qui aide la jeunesse encore candide à se tromper très sincèrement elle-même. Il n'était question de mariage ni pour René, trop pauvre, ni pour Lionel, trop ambitieux. Mais on formait une espèce de ligue, de coalition contre la vie si plate, le sort si dur à vaincre, la vérité si difficile à connaître et surtout la solitude du cœur si lourde à supporter. Une sorte d'affection fraternelle, quelque chose peut-être de plus étroit et de plus fort, où la confiance absolue ferait loi, où Lionel donnerait à René l'élément masculin qui manquait à son œuvre d'artiste, où René apporterait à Lionel, très seul à Paris, le charme de sa sollicitude et la grâce de ses enthousiasmes. On se verrait aussi souvent que l'on pourrait. Chez Madame Anderson, dans le monde, parfois chez M. et Mme Sorel, dont le modeste intérieur s'ouvrait au jeune homme, et peut-être aussi dans le mystère de quelques courses à la campagne, car il leur semblait romanesque et très noble de s'élever au-dessus des préjugés vulgaires, de se sentir supérieur aux flétrissantes tentations. Oui, René avait osé consentir à cela. Et voilà que Lionel s'était comme retiré depuis quelque temps. Il semblait vouloir se dégager de ces liens sollicités, inventés par lui. Il évitait presque son ami, ne venant plus que rarement chez Madame Anderson, ne montant plus aux Batignolles, rue d'Arcet, chez les Sorel, n'envoyant même pas ses billets promis pour une séance de la chambre. René sentit au vide affreux creuser tout à coup dans son cœur par cette indifférence, elle ne la supposait pas calculée, l'amour absolu que, sans le savoir, elle avait voué à Lionel. Elle ne s'en effraya pas, elle se dit « Il n'en saura jamais rien. Je serai pour lui une sœur, une compagne, une mère. Oui, je remplacerai sa mère malade, absente. Je lui tiendrai lieu de tout ce qu'une femme peut être en dehors du rôle d'épouse. Ne serait-ce pas monstrueusement égoïste à moi de consentir à devenir sa femme, même s'il le souhaitait, s'il me le demandait. J'entraverais sa carrière. Je lui imposerais les charges qui m'incombent. Je serai un fardeau pour lui, au lieu d'être le soutien, la consolatrice patiente, infatigable, que je rêve de placer à ses côtés. » Raisonnant ainsi, et sous le coup de la froideur subite et incompréhensible de Lionel, elle lut un jour au fond d'elle-même, cette fois avec épouvante, une de ces phrases qui se forment spontanément en nous et qui, tout à coup, surgissent comme à l'être de feu lorsque nous descendons dans notre fort intérieur, réflexions inconscientes de notre moi le plus caché, étranges manifestations qui, même innocentes, nous surprennent et nous terrifient, comme la révélation de forces mystérieuses, irrésistibles, nous dirigeant fatalement vers un but inconnu et se jouant de notre volonté. Dans de telles conditions, s'était dit René involontairement, il serait plus généreux à moi d'être sa maîtresse que sa femme. Voici quel raisonnement vint, après coup, expliquer et presque familiariser la jeune fille avec une si étrange idée. Abuser de l'amour qu'il pourrait un jour me montrer pour exiger de lui le mariage, le monde appellerait cela ma vertu, moi, je ne pourrais le nommer que mon égoïsme. Que l'ambition de ses parents se trouve ou non justifiée dans l'avenir, j'aurais toujours eu l'air à leurs yeux au sien, au mien même, puisque je serais forcé de me blâmer aussi, j'aurais eu l'air d'escompter la haute fortune qui lui semble promise, et d'avoir avant tout cherché à m'en assurer ma part. Bien que la sincérité de René, sa logique et cette conscience intime qu'elle prenait pour la vérité même, l'eussent menée tout droit à cette conclusion, elle ne l'entrevit pas sans frémir et sans se révolter. Un moment, elle se jura de ne plus revoir Lionel. Elle en aurait peut-être encore eu la force, bien que déjà son mal fût profond, si le jeune homme n'avait pas brusquement changé de manière d'être à son égard. Cette disparition soudaine, la souffrance de penser qu'elle n'avait rien été pour lui alors qu'il la préoccupait tellement, lui ôtèrent tout courage. L'initiative qu'elle aurait pu peut-être prendre, elle ne pouvait pas la supporter chez lui. Chez lui, à l'avenir, au bonheur duquel elle était prête à sacrifier soit son honneur, soit son amour. Elle se trouvait dans ses dispositions lorsqu'elle le rencontra sur le quai d'Orsay, le suivit au premier mot comme une enfant soumise, jusque dans le grand cabinet de travail du ministère, et d'elle-même, avec une inconcevable imprudence, reparla de cette sorte d'alliance romanesque conclue récemment entre eux. « Mademoiselle Renée, » dit Lionel gravement, « je ne peux pas être votre ami, du moins comme vous l'entendez, comme je l'entendais moi-même, avec cette familiarité si douce qui grandissait toujours entre nous. Je ne le peux pas, je ne le peux plus, parce que... » Il s'arrêta, la regarda jusqu'au fond des yeux, et Renée fut envahie tout à coup par un sentiment terrible et délicieux. Elle savait ce qu'il allait dire. « Parce que je vous aime. »« Oh, comme je vous aime !» reprit Lionel d'une voix extrêmement basse et lente, en laissant toujours sur elle le poids de son regard, poids d'une écrasante douceur, qui inspirait à René l'envie folle de s'y soustraire avec celle de le subir encore, et sur lequel son âme se ployait et se fondait d'ivresse. Elle baissa les yeux, ne répondit pas. Comme dans tous les moments où nous subissons des sensations violentes, l'impression du lieu, de l'heure, des détails extérieurs pénétra en elle avec une acuité extraordinaire. Il semble que les émotions profondes de l'âme devraient paralyser en nous les sens, voiler absolument le tableau souvent banal des objets qui nous entourent. Pourtant, c'est le contraire qui arrive. Nulle image n'est plus nette dans notre mémoire que le cadre parfois à peine entrevu des drames de notre vie. Telle pièce de notre maison, telle allée de notre jardin, hantée journellement pendant de longues années, est moins distincte en nous que le paysage brusquement apparu peut-être par la glace d'un train de chemin de fer, mais en face duquel nous avons entendu quelque irrévocable parole. Combien de fois notre pensée le contemple-t-elle à nouveau, ce paysage, dans sa rayonnante splendeur ou dans sa tristesse infinie? Et René, qui venait d'apprendre qu'elle était aimée comme elle aimait, René, les yeux fixés sur la flamme pétillante dans la haute cheminée de marbre blanc, sentait l'ombre de cette grise journée d'hiver s'épaissir presque autour d'elle et la toucher. Elle se rendait compte que le grand bureau chargé de papier et de livres se dressait là, massif, à deux pas d'elle. Que les larges panneaux clairs des murs s'étendaient entourés d'arabesques d'or, et qu'à travers les hautes fenêtres se dessinait sur le ciel pâle la grêle silhouette de quelques arbres dépouillés. À cet instant, toutes ces choses inertes et froides exercèrent sur son être vibrant comme une attraction singulière et tyrannique. Peut-être les échos muets lui répétaient-ils tout bas l'aveu suprême, et les écoutait-elle pour s'assurer que réellement elle venait de l'entendre prononcer. Lionel, devant le silence de la jeune fille, reprit la parole. « Je vous aime ardemment, René, mais je n'ose pas vous demander votre amour, car j'ai bien réfléchi. Il me serait impossible pour le moment de rien vous offrir en échange, sinon mon adoration sans borne. Je me dois tout entier à ma mère, qui compte sur mon avenir, à mon maître Gambetta, à mon pays qui réclame de grands dévouements et qui en trouve hélas si peu. Je ne puis pas me marier, fonder une famille, car il me faudrait pour cela chercher immédiatement quelques positions lucratives mais routinières et m'y enfouir pour le reste de mes jours. Plus tard, quand je verrai clair devant moi, quand j'aurai abordé de front la grande tâche à laquelle je me prépare encore, je pourrai, je l'espère, suivre librement l'impulsion de mon cœur, et alors quelque autre compagne que vous, René, souhaiterais-je d'obtenir? Mais il y a longtemps que vous m'aurez oublié, que vous serez marié vous-même. Jamais? S'écria la jeune fille. Oh, Lionel, vous avez raison. Votre noble tâche avant tout. Je vous donne à notre cher pays. Votre mère sera fière de vous. Moi, je vous attendrai avec patience. Dussiez-vous ne jamais pouvoir revenir à moi du haut de ces vastes sphères où vous vous élancez. Lionel ferma les yeux, puis les rouvrit, avec un geste un peu théâtral de la tête, comme ébloui passagèrement par la splendeur d'une vision soudaine. « Vous m'aimez donc ? » s'écria-t-il. Un long regard de René, un lent sourire, infiniment doux et passionné, lui répondirent. Malgré le danger d'être surpris dans cette grande salle enveloppée de l'activité du ministère, et où déjà des employés étaient entrés après un coup bien léger à la porte, Lionel se leva, et René, d'un mouvement irrésistible, vint mettre ses mains dans les siennes. « Oh, la vie partagée avec vous, comme elle sera haute, claire, délicieuse, » murmura-t-il. « Oh, mon ami, vous voulez bien la traverser à mes côtés, malgré les difficultés que je vous ai montrées, malgré les sacrifices que je vous demande ?»« Je vous le répète, » fit la jeune fille, « je puis attendre, attendre toujours. Ne parlez pas de sacrifices. » Mon bonheur à cette minute est assez grand pour remplir toute une existence. » Les réticences et les froideurs calculées d'une coquette ressemblent plus à la vertu que l'impulsion généreuse d'un cœur qui, se donnant, ne sait rien retenir de lui-même et songe moins à se faire valoir qu'à atténuer le prix de sa suprême offrande. Lionel, tout sincèrement heureux qu'il fût de l'aveu de René, accepta sans les discuter ces délicates paroles. Entre deux, c'était lui, sans nul doute, pensait-il, qui allait apporter au contrat provisoire dont les clauses se dessinaient très nettement dans sa tête la part la plus large d'honneur et de joie. Il se sentit soudain très fort pour attaquer ce mot « attendre », répété pour la troisième fois par la jeune fille. Il le redit à son tour, à plusieurs reprises, d'un ton interrogateur et mélancolique, puis il ajouta « Pour combien d'années faudra-t-il renoncer à nous voir ?» Renoncer à nous voir? Mon Dieu, Lionel, est-ce que vous quittez Paris? Que voulez-vous dire? Hélas, René, vous êtes trop calme et trop pur pour savoir ce qu'est le feu de l'amour dans les veines d'un homme de mon âge. Ce n'est pas seulement de votre esprit, de votre intelligence, de votre talent, de votre adorable cœur que je suis épris. Pourquoi ai-je essayé de vous fuir depuis quelque temps? Ce pacte d'amitié me brûlait comme une tunique de Nessus. Notre aveu ne fait qu'aviver l'ardeur de ma passion pour vous, corps et âme, pour votre cher vous tout entier. » Ses yeux, chargés du désir le plus éloquent, le plus sincère, descendirent lentement du visage de René à sa jolie taille serrée dans la jaquette de pluche, effleurèrent les hanches un peu fortes sous la draperie foncée et s'arrêtèrent une minute aux pieds mignons sous la jupe courte. Elle se sentit rougir et pâlir dans le trouble inouï, à la fois effrayant et si doux, que répand dans tout l'être de la Vierge la première évocation des caresses possibles d'un homme adoré. Elle l'admirait en même temps, car l'expression qui pouvait le plus embellir ce beau garçon de 24 ans, à la barbe brune et frisée, aux cheveux courts et compacts, aux lèvres épaisses et d'un rouge saignant, aux prunelles câlines, c'était l'éclair impétueux du désir inassouvi, flamme farouche tempérée par la supplication tendre, soumise, irrésistible du regard. Ce bel animal sensuel, voué par sa nature à la jouissance à tout prix, pouvait se tromper encore dans l'inévitable sincérité de la jeunesse et sentir par moments au fond de lui-même de plus nobles aspirations. Il les éprouvait surtout sous l'influence bienfaisante de cette jeune fille aimée, enthousiaste et pure. Puisqu'il restait jusqu'à présent lui-même sa propre dupe, comment René eût-elle douté de lui? Comment se fût-elle méfiée de la fascination dans laquelle il était en train de l'enlacer, elle qui n'avait pas assez d'expérience pour démêler parmi les entraînements de l'amour quelle est la part de l'illusion des sens? René, dont le sang ne s'était point infiltré goutte à goutte dans ses veines par la maigre source d'une race étiolée, mais dont le père était fils d'une robuste famille de propriétaires agriculteurs de la Bourgogne, et dont la mère descendait de libres et hardis montagnards écossais, gentilhomme et ancien chef de clan, René se heurtait à l'écueil de toute jeune fille ardente en même temps qu'absolument honnête. Elle écoutait, sans les comprendre, les appels secrets de la chair, et prenait tous les mouvements mystérieux de l'amour pour la voix seule de son cœur. Or, sa philosophie naïve et sa romanesque disposition d'artiste lui donnaient précisément pour guide ce faible cœur. Comment allait-elle pouvoir lutter contre l'impulsion irrésistible qui la poussait à se dévouer à Lionel complètement, jusqu'au bout, dans son esprit, dans sa chair, dans son avenir, dans son honneur, impulsion qui déjà lui apparaissait presque sous la forme d'un devoir sacré? On venait de frapper à la porte. Ils se séparèrent, et un huissier de la chambre entra. Sa livrée verte au revers rouge vif ajouta pour les yeux de René une note nouvelle à cette symphonie visible des choses, accompagnement des voix intérieures, forme palpable où s'incarnent les sentiments et dont le vulgaire aspect prend plus tard dans le souvenir des significations si caractéristiques et si étranges. Aucun détail parmi les petits événements de cet après-midi-là ne devait jamais s'obscurcir ou s'atténuer dans la mémoire de la jeune fille. L'huissier venait du secrétariat de la questure, il apportait un billet pour la séance. Quand il fut parti, René dit adieu à Lionel. Elle voulait demeurer sur la douceur de son aveu, l'empêcher d'ajouter des paroles qui la feraient tomber de la hauteur de ce ciel dans un enfer de doute et de perplexité. Elle tremblait de ce qu'elle avait cru comprendre, redoutait qu'il ne s'expliquât davantage. « Nous nous reverrons tout à l'heure, » dit le jeune homme. « Je veux moi-même entendre Gambetta. Vous m'apercevrez dans l'hémicycle, et si je le puis, je monterai dans votre tribune pour vous désigner les députés intéressants. » Comme elle allait sortir, il la retint. Il venait de remarquer à la boutonnière de sa jaquette de loutre un petit bouquet de violettes. « Ne gardez pas ces fleurs sur vous pour entrer là-bas, » dit-il, avec une sollicitude et une autorité caressante qui causèrent une impression exquise à la jeune fille. « Ce ne serait pas très convenable. Vous êtes seule, on va vous remarquer. » Il ajouta, les enlevant lui-même, « Donnez-les-moi. » Et comme René se tenait là, devant lui, troublé, sans force, il l'appuya contre son cœur et murmura passionnément. « Oh non !» « Je ne puis pas n'être pour vous qu'un ami, je ne puis pas. Vous êtes trop jolie. » Elle se dégagea, s'enfuit, puis la main sur le bouton de la porte lui jeta un dernier regard. Debout, les yeux enivrés, pleins d'adoration et de prière, le petit bouquet de violettes entre ses doigts, c'est ainsi qu'elle le vit, C'est ainsi qu'elle emporta son souvenir. Comme elle devait s'y reporter souvent plus tard à ce souvenir. Comme avec angoisse elle y rechercherait souvent la première apparition de la fatalité terrible et chère qui allait briser sa vie. Comme souvent elle y aspirerait, pour l'épuiser encore, la seule goutte d'ivresse pure et absolue que l'amour eut à lui offrir. Un moment plus tard, sentant à peine qu'elle avait marché, tant le bonheur la soulevait au-dessus de terre, et croyant circuler dans l'atmosphère d'un monde nouveau, idéal, enchanteur, elle était dans les couloirs de la chambre. Un huissier la débarrassait de son manteau, de son manchon, et elle regardait comme si elles eussent été écrites en lettres d'or sur des murailles de paradis, les inscriptions qui se détachaient en noir sur les portes menant aux tribunes, sénat, questure, préfet de la Seine, etc. L'huissier ouvrit la tribune des ministres. Des messieurs debout s'écartèrent, d'autres se pressaient sur d'étroites banquettes. Des dames, en toilettes élégantes, occupaient le premier rang. Elles se retournèrent, abaissant leurs jumelles au bruit de la porte. Il y avait encore une place entre elles. René s'y glissa, parmi le froufrou des jupes obligeamment refoulées. Et tout de suite, le tapage d'en bas, la voix de l'orateur, les interruptions violentes, le brouhaha des conversations particulières, la sonnette du président, lui causèrent un excitement qui l'amusa. Il s'y mêla chez elle certains respects, l'idée des importants intérêts qui se débattaient là, et comme la sensation d'un grand fantôme auguste, celui de la patrie, qui, silencieuse et gravée, aurait plané sur ce tumulte. René n'imaginait pas encore que tous ses gestes, toutes ses voix, tous ses cœurs pouvaient être guidés par d'autres mobiles que l'amour des lois justes, le souci du bien public et les nobles ambitions. Elle ne devait entrevoir que bien longtemps après les rouages multiples et mesquins, souvent monstrueux dans leur petitesse, de cette imposante machine. Elle songea au serment du jeu de pomme, aux pages enflammées de Michelet, aux cartons de David. La tribune, plus monumentale qu'elle ne se l'était figurée, avec le fauteuil du président qui la surmonte, avec les sièges des secrétaires, tout ce lourd édifice d'acajou garni d'emblèmes de cuivre, lui parut sacré comme un autel. Elle se dit qu'un jour, sans doute, Lionel en gravirait les degrés. Ce jour-là, le jeune homme aurait deux inspiratrices, elle, qui l'écouterait, tremblante, dévoilée, et par-dessus tout la France. La France que René aimait avec tant de force, depuis que, toute petite, elle avait vu la guerre et les horreurs du siège. Oh, le bel avenir d'amour, d'enthousiasme, de travail et de gloire! Tout à coup, un silence qui se fit la rappela de ses rêves lointains à la réalité présente. Un gros homme lourd, aux cheveux gris rejetés en arrière, au masque un peu vulgaire mais énergique, montait pesamment les marches de la tribune. Il s'appuya des deux poings sur la tablette et jeta tout autour de la chambre un regard circulaire. Cette attitude ramassée, cette grosse tête enfoncée dans les larges épaules, ce coup d'œil étincelant, donnèrent à René l'idée d'un lion qui va bondir. Cependant, il commença d'une voix basse, empâtée, presque bredouillante. C'était Léon Gambetta, président du conseil. Elle fut légèrement désappointée. La question débattue n'était pas très passionnante. Rien ne prêtait aux effets d'éloquence. C'était un débat tout d'affaires où un peu de bon sens suffisait. Un sujet pareil ne pouvait réveiller et mettre en jeu la puissance oratoire du fougueux tribun. Cependant, le ton de sa courte harangue s'éleva vers la fin. Quelques interruptions sarcastiques le firent bondir comme un taureau que des mouches harcèlent. Une voix moqueuse répéta l'une de ses phrases dans une intention d'ironie. Il se retourna, croisa ses bras, cria « Oui !» s'arrêta un instant et reprit « Oui, c'est bien cela que j'ai dit !» René admira ce mouvement, le « oui !» lancé avec un défi et un dédain superbe. N'était pas le monosyllabe banal d'affirmation. Ce n'était pas « oui ». C'était « ouais ». Ce n'était plus un mot. C'était un rugissement. Mais cette étincelle, jaillie au choc de la contradiction, fut la seule qui révéla dans cet après-midi de décembre à René, écoutant Gambetta pour la première fois, une force réelle, un don victorieux. Et encore, à ce moment elle la pressentit toute matérielle, pour ainsi dire, résidant non point dans la pensée dominatrice et sûre d'elle-même, mais dans la chaleur d'un cœur volontaire et très ardent, dans le bouillonnement d'un sang aveugle et généreux, dans le mouvement passionné du corps, dans la magie de l'organe, dans la ravissante fécondité de l'imagination. Quand, plus tard, elle en eut jugé complètement, il dut lui plaire. Comme femme et comme artiste, elle était doublement impressionnable et impulsive. Cette nature d'homme, si française, si généreusement chimérique, si dépourvue de toute bassesse, cette éloquence emportée, exercèrent un charme profond sur la jeune fille. Puis, elle lui voua une sorte de culte, à cause de l'engouement qu'il avait pour Lionel, de la confiance qu'il mettait en l'avenir du jeune homme, des bienfaits dont il le combla. Cependant, son impression du premier jour fut plus froidement clairvoyante, plus calme et à certains points de vue plus juste. Gambetta était descendu de la tribune, et un long monsieur, mince et blond, lui avait succédé. Elle entendit chuchoter autour d'elle le nom de monsieur R. Une voix un peu monotone, mais agréable et claire, une diction élégante, une argumentation serrée. Tout ignorante qu'elle fût des questions politiques, René sentit que l'orateur, très maître de son sujet, dès les premiers mots prenait l'avantage sur Gambetta. Aux raisons tirées du sentiment succédait la logique implacable. Les grandes phrases vagues et sonores s'évanouissaient devant les fêtes comme des bulles de savon dans un vif coup d'air. Et le désappointement de René s'accentua lorsque le président du conseil, remonté à la tribune pour y poster, ne trouva que quelques paroles insignifiantes, sans portée, prononcées d'une voix sourde, presque maldite. Elle s'amusait pourtant d'avoir pu comprendre, apprécier, mesurer la force des coups. Son parti pris en faveur de Gambetta, pas plus que les opinions de Lionel, ne l'avait donc influencée. Elle se sentait toute fière de son indépendance. « Il vaut bien, songeait-elle, que je fasse mon éducation politique pour être sa vraie compagne plus tard. » Et toutes ces grandes préoccupations qui se mêlaient à son amour gonflaient son cœur d'émotions profondes. Son art n'était pas oublié. Des visions de scènes sublimes, affixées sur sa toile, passaient dans son esprit surexcité. Les tendres regards de Lionel tout à l'heure se glissaient, se coulaient au fond de son cœur, lui causant des frémissements soudains qui l'ébranlaient de la tête aux pieds. Elle s'enfonça dans une sorte d'extase, bercée au brouhaha des voix, tandis que la discussion continuait, ayant perdu son intérêt devant la chambre inattentive. L'atmosphère était lourde, étouffée. À deux ou trois reprises, René appuya le revers de sa main contre sa joue. Le chevreau de son gant procurait une sensation presque fraîche à sa peau toute rose de chaleur. Comme elle faisait ce mouvement, le vitrage d'en haut s'éclaira et Lionel, qui, de l'hémicycle, la cherchait des yeux depuis un instant, la reconnut tout à coup. Il s'était tenu debout dans l'entrée de gauche pour entendre parler son illustre patron, qu'il appelait parfois assez cavalièrement son ami. Maintenant, il s'était avancé et gesticulait à quelques pas de la tribune, entouré de trois ou quatre députés. Sa verve naturelle et le désir d'être aperçu de René au centre même de la solennelle enceinte, religieusement écouté par des législateurs authentiques, le faisait se démener un peu plus que de raison. Nul n'y voyait de mal, du reste. On flattait en lui le favori du dictateur, l'héritier présomptif, pour ainsi dire, celui sur l'épaule duquel Gambetta frappait avec un geste d'orgueil et d'espoir, comme pour le léguer d'avance à l'avenir de son œuvre et de son parti. On attendait sa majorité politique comme on attend celle d'un prince. Lionel, en effet, n'avait que 24 ans et ne serait éligible que l'année suivante. Son arrivée à la Chambre était annoncée, escomptée, comme un événement important. « Ce sera quelqu'un, » disait-on autour de lui, en parlant de ses dons magnifiques, de son organe superbe, de sa facilité d'assimilation, de son travail extraordinairement rapide et de son extérieur séduisant. « Ce sera quelqu'un. » Phrase magique, dangereuse à entendre trop tôt, car elle peut aussi bien soulever jusqu'à la gloire une renommée naissante que l'endormir et l'éteindre comme un lourd couvercle de plomb. Malheur à celui qui la sent se poser sur son front, ainsi que la couronne de sa jeunesse, et qui n'a pas la tête assez large ni assez forte pour la porter. Les lauriers précoces sont semblables à des fleurs hâtives, souvent bien vite fanées. Ils valent rarement, dans leur fraîche et brillante verdure, les feuilles plus sombres, mais plus robustes, qui demandent toute une vie pour croître et qui s'épanouissent sur des cheveux blanchis. René, avec son tact modeste, souffrit légèrement en contemplant de sa tribune la pantomime de Lionel, ses haussements d'épaules et ses gestes de dénégation tandis que les orateurs parlaient. Elle trouva cela de mauvais goût. Ne devait-il pas sentir que dans cette assemblée, où peut-être il se ferait entendre un jour, il n'avait encore que le droit d'écouter? Elle l'eût admiré davantage dans une attitude réservée, muette, réfléchie. Il s'avança jusqu'au banc des ministres et dit quelques mots au président du conseil. C'était un enfant gâté, décidément. Gambetta lui sourit, puis se tourna vers ceux qui l'entouraient et leur désigna le jeune homme de sa main franche et largement ouverte. Il semblait dire « En voilà un sur qui nous pouvons compter ». Alors René s'attendrit, sans vouloir de l'avoir blâmé. C'était la jeunesse de Lionel, son ardeur, sa vaillance qui l'entraînait. Mais comme on avait confiance en lui. Le geste du grand tribun l'émut comme une bénédiction ou comme un baptême qui aurait sacré Lionel pour les luttes à venir. Un instant après, il parut à ses côtés. « Eh bien, que dites-vous » fit-il joyeusement. La tribune s'était désemplie. Il s'assit derrière elle. On procédait alors au vote sur la question qu'elle avait entendu débattre, et Lionel lui nommait les députés tandis que ceux-ci glissaient leurs bulletins blancs ou bleus dans les urnes. René avoua que M. R. l'avait convaincu bien mieux que Gambetta. « S'il ne tenait qu'à mon vote, dit-elle en riant, le grand ministère tomberait ce soir. » « Moi aussi, je tomberai alors, dit Lionel, car je devrais donner ma démission. » Mais il était sans crainte, il ne s'agissait pas d'une question de cabinet, et l'on avait une majorité de gouvernement absolument sûre. En effet, comme, un instant après, René bavardait joliment, développant des théories politiques avec un sérieux tempéré de sourire qui ravissait Lionel, le jeune homme l'arrêta par un chut si doux qu'il ressemblait à l'envoi d'un baiser, accompagné d'un signe de tête vers la tribune. Monsieur Brisson, ce président que René trouvait tout à fait majestueux et décoratif, pesait sur le levier de la sonnette tandis que le chef des huissiers criait « Du silence, messieurs !» Le nombre des votants fut proclamé, puis la majorité absolue. Ensuite, les voix pour et les voix contre l'amendement. Le gouvernement l'emportait. « Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute, » dit Lionel. La séance n'était pas finie, mais René voulut partir. Le jeune chef de cabinet sortit avec elle, lui fit remettre son manteau, parla familièrement aux huissiers, et envoya l'un d'eux chercher sa propre pelisse à un autre vestiaire. Les belles dames qui se trouvaient là, s'enveloppant de leur fourrure, se sentirent tout impressionnées et se demandèrent quel personnage pouvait bien être ce joli garçon si sûr de lui. « Permettez-moi de vous ramener, » demanda-t-il en quittant le palais Bourbon. Mais il eut beau supplier, René refusa. « Il fait presque jour encore, vous me compromettriez, » dit-elle d'un ton moitié grave, moitié plaisant. « René, » reprit le jeune homme, « il faut pourtant que je vous parle. Tenez. Ne sachant pas si cela serait possible, j'avais griffonné quelques mots au crayon pour vous les passer tout à l'heure, dans la tribune. » Il lui tendit une petite enveloppe et, sous le bec de gaz, elle lut, machinalement, les mots au timbre sec, « Chambre des députés ». Elle songeait qu'il venait de l'appeler par son nom, et que cela lui semblait tout naturel. Elle eut peur de ce qu'elle éprouvait, repoussa le papier, lui dit un adieu presque froid. Mais comme elle se retournait, il fit un pas à côté d'elle et glissa la lettre dans son manchon, cherchant à la pousser entre ses doigts afin qu'elle la saisît. Ce geste fut si inattendu, le regard qui l'accompagna si suppliant, si soumis, et en même temps si passionné, que René, irrésolu, troublé, ne put le repousser. Avant qu'elle eût dit un seul mot, Lionel l'avait salué et déjà il était assez loin, marchant rapidement vers la rue de Bourgogne. Elle s'en alla donc, pensive, serrant entre ses mains, dans la tiédeur du manchon, la petite lettre qu'elle n'osait pas lire, car il fallait bien qu'elle se l'avouât, maintenant qu'elle se trouvait seule et qu'elle s'interrogeait. Il y avait, dans la façon dont Lionel lui avait parlé de son amour, dans toute l'attitude du jeune homme auprès d'elle durant cet après-midi, quelque chose d'obscur, d'irrégulier, qui devait la mettre sur ses gardes, l'empêcher de goûter, dans ses enivrantes délices, toute la joie du premier aveu? N'avait-il pas déclaré hautement qu'il ne se marierait pas? N'avait-il pas en même temps laissé paraître une passion dont la force et la vérité dominaient la jeune fille, l'épouvantaient presque? N'avait-il pas eu de ces paroles d'espérance, de ces promesses d'avenir en commun par lesquelles on engage sa vie? Pourtant, il ne la nommait parmi tous ses projets que sa compagne, et pas une seule fois sa femme. Qu'espérait-il? S'il se doutait que René l'adorait, ne savait-il pas quel trouble il allait jeter au fond de cette âme si pure, si paisible jusqu'alors? Oserait-il, si ses intentions n'étaient pas arrêtées, sérieuses, oserait-il se jouer par vanité, par caprice, du repos sacré d'une vie vaillante, difficile, laborieuse? Il connaissait les luttes journalières de cet artiste de 20 ans. Ne lui avait-il pas décrit lui-même les sombres écueils que rencontre à Paris la femme qui travaille, et surtout la femme qui a du talent? Ne lui avait-il pas promis d'être une force pour elle, un appui moral, un véritable frère? S'il n'éprouvait aujourd'hui qu'une fantaisie passagère, lui, homme, et par conséquent capable de mesurer sa passion, comment ne tremblait-il pas en parlant d'amour à celle qui, il le savait bien, ne se donnerait point à moitié, se livrerait tout entière, sans réserve, à un bonheur ou à un malheur éternel? Mais à quoi songeait-elle donc? D'où venaient ces lâches pressentiments, ces viles pensées? À quel moment Lionel lui avait-il donné le droit de le juger avec méfiance? Manquait-elle de courage, de générosité? Il l'aimait, qu'avait-elle à craindre? Elle s'abandonnerait aveuglément à lui. Il lui dicterait sa conduite. Il était son maître élu, l'homme de son choix, le seul qu'elle pût aimer, qu'elle aimerait jamais. Désormais, ses premiers devoirs se rapporteraient à lui. Elle allait ouvrir sa lettre et, quoi qu'il dictât, elle obéirait. René tira le papier de son manchon et d'abord jeta un regard autour d'elle pour découvrir une lumière qui lui permettrait de lire. Où donc était-elle? Une longue avenue baignée par la brume du soir. De grands arbres noirs, décharnés, lugubres. Des ombres de balustres en pierre et au loin, plus bas, le reflet d'un fleuve. Elle se trouvait dans les Tuileries, sur la terrasse du bord de l'eau, venue là, machinalement, pour réfléchir. Pour se sentir un moment bien seul et se ressaisir, s'il était possible, au milieu du grand vertige qui emportait son âme. Et elle marcha vers la place de la Concorde, s'appuya sur le rebord de la pierre et resta là, perdue dans une rêverie solennelle, poignante et douce, les yeux fixés comme par une mystérieuse fascination sur le fronton triangulaire du palais de la Chambre qui s'estompait en lignes foncées dans le brouillard bleuâtre. Il lui semblait que son destin tenait entre les froides murailles. Quel destin! Le lourd monument prenait un aspect de tombeau. La rumeur du bruit dont il s'emplissait tout à l'heure revint bourdonner à ses oreilles, et dans l'air glacé du soir, elle sentit passer sur son visage comme une bouffée de l'atmosphère ardente qu'il y avait un moment respirée. Elle se rappela l'étrange désappointement produit en elle au cours de la discussion. Pendant une heure, la simple logique avait eu raison de ses penchants, de ses préjugés, de son inclination. Et pourquoi? Lionel l'avoua lui-même que Gambetta ne s'était jamais montré plus faible. Singulier hasard, dont l'impression augmentait à cette heure, sans raison apparente, l'angoisse de ses doutes. Est-ce que la destinée, expression de forces impitoyables, lasse d'être l'instrument aveugle de nos douleurs, prise parfois d'une pitié profonde, ne nous enverrait pas de secrets et suprêmes avertissements? René devait se poser cette question plus tard en se reportant à cette journée, la dernière où elle put encore hésiter avant de choisir sa route, car le lendemain allait décider de sa vie.